Alors, le sujet que j'ai envoyé, donc, on a très, disons, le sujet que nous allons voir, on a fait une journée d'études, une grande journée d'études sur le sujet au mois de juin. Mais comme j'ai refait un peu cette conférence, j'ai refait cette conférence. Dans plusieurs cadres, et je vois que, je dirais, la nécessité d'aborder le sujet suivant. Je ferme mon appareil, mon insupportable, excusez-moi. Donc, c'est comment aborder, en termes de Torah, aborder la sexualité. Alors, c'est vrai que dans nos milieux, on pourrait dire les milieux de Torah, ce sujet n'est pas présenté en public. Il n'est pas présenté en public parce que c'est quelque chose de très important dans notre tradition, c'est la pudeur. Donc la pudeur est quelque chose de très très important. Mais néanmoins, beaucoup des maîtres de notre génération, des maîtres de Torah, on dit qu'aujourd'hui, on pourrait dire que il y a un genre de religion officielle dans lequel on vit de gré ou de force qui s'appelle la sexualité. Il y a des religions, bon, il y a, je sais pas, le christianisme, l'islam, bon, des religions, le bouddhisme, bien. La scientologie. Mais il y a d'autres, il y a des religions multiples et diverses. Et on est dans une ambiance où il y a la sexualité est mise au pinacle. C'est mis comme un devoir de foi avec des dogmes. Je dirais, chaque religion a des dogmes. C'est quelque chose, comment dire, où on est obligé, je dirais, de participer de cette religion. On est obligé d'exprimer qu'on a une sexualité épanouie. Si t'as pas une sexualité épanouie, où tu fais croire aux gens que tu as une sexualité épanouie, on ne te cause pas, on ne te parle pas, bien qu'en fait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Comme toute, je dirais, comme toute religion, il y a des dogmes. C'est-à-dire, une religion, on ne t'explique pas. On te dit, voilà, tu es grand, oui, tu pars dans la vie avec une boîte de pilules, avec une boîte de préservatifs. Et Hatzlacha, en hébreu, ça veut dire bonne réussite. Et ça sert à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut avec ça? Ah non, non, non. On n'explique pas, il n'y a rien à expliquer. C'est, tu dois t'investir là-dedans. Bon, c'est vrai, dans des milieux juifs religieux, c'est pas l'ambiance. Mais bien que, je dirais, c'est très important, dans les milieux yeshivot, on se marie très jeune. Dans le milieu des yeshivot, on se marie 20 ans, 21 ans. Même dans le Shulchan Aruch, si vous regardez le Shulchan Aruch, on a fait un cours mardi soir dernier à l'yeshiva. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que la mitzvah, c'est se marier à 18 ans. 20 ans, c'est la limite rédhibitoire, mais c'est mieux de se marier avant 18 ans. Bon, c'est pas dans nos mœurs, mais ça montre bien que les maîtres de la tradition juive considèrent que un homme et une femme sont pas faits pour vivre seuls. C'est fait, on est fait pour vivre à deux. Ouais. On n'est pas fait pour vivre seul. Alors, on est dans cet environnement où, je sais pas, vous avez les journaux. Que vous lisez tous, que je lis avec vous, Gala, Entrevue et d'autres, ou des stars souriantes, épanouies, etc. Donc on se doit d'être souriant, épanoui et réussissez dans l'existence. Bien. Maintenant, comment... Alors, les grands maîtres d'aujourd'hui disent que la pudeur, c'est fondamental, mais c'est nécessaire néanmoins de faire connaître tout le corpus extrêmement riche qu'il y a dans notre tradition là-dessus. On pourrait dire tout le sujet lié au couple, mais pas seulement au couple, simplement le mariage, mais la vie intime du couple est quelque chose absolument fondamental dans notre tradition. Tellement fondamental qu'en termes de Kabbalah, la vie de couple s'appelle Yesod, le fondement. C'est le fondement. Et ça, on va essayer de voir quelques aspects du sujet. Ça, c'est premièrement. Oui, alors aussi quelque chose. Que comme c'est, je dirais, un environnement assez oppressif sur ce sujet, dans lequel on est très démuni, je pense qu'on est très démuni, on est largué beaucoup là-dedans, épanouissez-vous. Oui, mais pourquoi, comment, rien, il n'y a pas de mode d'emploi. Peut-être après, quand la personne, elle a divorcé 2-3 fois, après elle se dit, bon, peut-être, faudrait peut-être que je réfléchisse un petit peu, qu'est-ce que je suis en train de faire. Bon, mais, mais à part ça, on part benoîtement dans l'existence. Voilà, allez-y. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des mouvements de réaction par rapport à ça, des ligues de virginité qui se développent beaucoup pour ne pas jouer le jeu là-dessus. Est-ce que c'est une solution ? Pas une solution, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous on a proposé dans la tradition juive ? Bien. Alors, premièrement, après l'exposé, osez, je dirais, poser des questions précises. N'ayez pas peur, oui, bien que vous soyez filmé, oui, mais on fera en sorte que d'un point de vue juridique, ça ne se porte pas contre vous. Et qu'on ne vous enverra pas la brigade des mineurs et qu'il n'y aura pas un nouveau scandale du Carlton. Mais le... Alors tu pourras nous faire un exposé peut-être ? Oui. Mais comment dire, de manière concrète, n'hésitez pas. Dans la mesure où c'est faisable, hein, on est quand même en groupe, il y a peut-être ça gêne peut-être de poser certaines questions. Mais je pense, j'encourage d'aborder des questions qu'en général on n'aborde pas. Je pense que c'est important parce que la Torah a énormément d'enseignements sur ces sujets. Premièrement, d'abord, tout ce qui a trait de la vie intime du couple. Je parle de la vie intime du couple, entre un homme et sa femme. Parce que les relations extra-conjugales ne seront pas le sujet ici. Vous pouvez éventuellement poser des questions, mais on ne va pas parler de ça. Est-ce que c'est interdit, pas interdit ? Il y a énormément de choses développées là-dessus. Peut-être qu'on abordera, peut-être la semaine prochaine, les sujets. Est-ce que le mariage est obligatoire ? Est-ce qu'on peut vivre un homme et une femme sans être mariés, d'après la Torah ? Ça veut dire, oh, c'est sûr que c'est interdit. On va voir, c'est des grands débats. Les grands débats. On peut aborder ça. Maintenant, il y a aussi un point fondamental, c'est les lois de pureté familiale sont fondamentales aussi, c'est-à-dire que la personne soit mariée ou pas mariée, le bain rituel est absolument fondamental dans nos traditions. Voilà. On ne va pas non plus aborder ce sujet, mais je pose cela comme une condition absolument fondamentale. C'est-à-dire que même si quelqu'un vivrait en concubinage, un jeune homme avec une jeune fille, pas marié, D'après beaucoup de décisionnaires, c'est pas forcément interdit. Mais il faudrait que cette jeune fille aille au bain rituel. Voilà. Quand bien même ne serait-il pas marié. Ça s'est posé. Je pense qu'on verra ça une fois ultérieure. Le sujet, maintenant on parle de la vie mariée. Un homme et sa femme. La relation intime entre un homme et sa femme est appelée, je vous ai dit, yesod, fondement, mais dans notre tradition, on appelle ça aussi kedusha, c'est la sainteté. C'est-à-dire que, et ça c'est une césure complète par rapport à la culture dans laquelle nous vivons, la vie intime entre un homme et sa femme, entre un homme va avec son épouse, c'est la connexion de plusieurs mitzvot de la Torah. Nous savons qu'il y a 248 commandements positifs dans la Torah. Eh bien, un couple qui se retrouve, d'abord, il y a une relation de mitzvah. Ce sont des commandements de la Torah. Le premier commandement, c'est fructifier, multiplier. La base de la Torah, et nous l'avons vu dans les différents cours où la plupart d'entre vous vous êtes déjà allés, que la base de la relation entre l'homme et une femme, c'est pour avoir des enfants. C'est Piria Virivia, fructifier, multiplier. Et Maïmonide dit, dans son commentaire sur le 7e chapitre dans le traité Sanhédrin, Maïmonide dit que la preuve de la, comment dire, de l'importance fondamentale de la relation entre un homme et sa femme, c'est que la vie vient de là. C'est la vie qui, pour dans notre tradition, est quelque chose de supérieur. La preuve que c'est supérieur, c'est que si quelqu'un, sa vie est en danger, on repousse Shabbat. Si quelqu'un, sa vie est en danger, bien même si Shabbat c'est très important, même si Yom Kippour c'est très important, si quelqu'un il défaille à Yom Kippour et sa vie risque d'être en danger, même pas sûr qu'il soit en danger, il y a un risque, la personne doit manger Yom Kippour. Parce que la vie est supérieure à Yom Kippour et supérieure à Shabbat. Or, cette vie, elle vient de relations entre un homme et une femme. Donc ça montre déjà l'importance structurelle, fondamentale qu'il y a. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, vous allez me dire, alors, madame, elle est enceinte. Alors, bon, c'est fini, puisque maintenant, on a fait fructifier, multiplier. Il n'y a pas une grossesse qui se greffe à une autre grossesse. Ouais, donc, c'est fini. Il y a encore des mitzvot relatives. Il y a des mitzvot relatives entre l'homme et la femme. Alors, j'aime bien avoir des tableaux pour bien mettre les choses en place. Il n'y a pas de tableau. Mais j'aime bien, si vous voulez, que ça soit premièrement, deuxièmement, troisièmement. Alors, je vais essayer d'imaginer qu'il y a un tableau. Vous voyez le tableau ? Donc, premièrement, premier commandement lié entre un homme et son épouse, fructifier, multiplier. Mais, si par exemple, elle est enceinte, ou bien elle est ménopausée, que sais-je. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de mitzvah? Il doit bye-bye, il s'envoie des mails, oui, des SMS et des mails. Alors, il y a une deuxième mitzvah relative entre l'homme et sa femme. Quand je dis mitzvah, ça veut dire commandement de la Torah, que nous avons déjà avec plusieurs d'entre vous déjà étudié à l'Yeshiva, on a beaucoup étudié ça, c'est le riouv, l'obligation de Ona. Il y a mon livre, c'est 13 ans, n'est-ce pas? Demandez le programme. Un chapitre, Martine, vous avez vu, sur Ona, l'obligation d'Ona? Non, d'accord. Alors. Ah, d'accord. Au table sabbatique. Ah, d'accord, merci. Ouais. Il y a un homme épouse une femme. Il a, d'après la Torah, trois obligations. Quand un homme se marie, épouse une femme, il a trois obligations d'après la Torah. Nous avons moult fois, sur ceux qui ont déjà entendu des cours là-dessus, je le répète, parce que c'est fondamental dans le sujet. Un homme épouse une femme, il a trois obligations. La Torah l'engage à trois choses à l'égard de sa femme. Nourrir son épouse. Une obligation de la Torah de nourrir son épouse. C'est-à-dire de pourvoir aux besoins de son épouse. Voilà. Ah maintenant, si par exemple elle gagne bien sa vie, alors elle peut concéder, merci. Merci, ça va. Mais si tant est qu'elle n'est pas obligée de bosser, ça incombe au mari de pourvoir aux besoins de sa femme. Ça ne veut pas dire qu'elle va toute la journée regarder des esparoutes, des esperettes, machin. Ouais. Elle peut quand même un peu faire quelque chose dans la journée, mais fondamentalement, elle n'est pas obligée de bosser. Alors, si elle bosse, elle peut dire à son mari, merci, pas besoin de ça va. Ça, c'est nourrir sa femme. Deuxième obligation d'après la Torah, le mari a l'obligation de vêtir sa femme. Alors, quand on dit ça, on voit, pourquoi pas. Et c'est fondamental. La Torah considère que les vêtements, pour une femme, c'est presque aussi important que se nourrir. Pour nous, la plupart des hommes, on considère que c'est des bêtises. On considère que ce n'est pas très important. Mais la Torah nous dit, attention, toi peut-être, on s'en fout de qu'est-ce que tu penses. Pour la plupart des femmes, c'est vital, les habits. Et j'enseigne que faire les soldes avec son épouse, c'est une mitzvah de la Torah. Ça passe ? Bon.
Ne pas acheter en solde, c'est une avéra.
Comment ?
Ne pas acheter en solde, c'est une avéra.
C'est une manière de dire. C'est une manière de dire. Ouais. Bon, il y en a qui vont dire les soldes, c'est un canular, machin, c'est un traquenard. Bon, ok, je rentre pas dans les problèmes. Mais disons, ça veut dire. C'est la Torah. Et là, regardez, ici, c'est fondamental. Ça a l'air de rien. Mais ces détails sont absolument fondamentaux. Que la Torah enseigne à l'homme. Quand un homme épouse une femme, quand il y a un mariage, la Torah va dire, attention toi bonhomme, tu vas vivre avec quelqu'un qui ne vit pas forcément avec les mêmes mécanismes que toi. Il y a peut-être des besoins qui ne sont pas forcément le copier-coller de tes besoins à toi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Les vêtements, c'est vrai, un homme, je discute quand même avec pas mal de gens, je vois au fil de temps, et je discute aussi avec moi-même des fois. Je vois par exemple, j'ai des filles adolescentes. Intéressant jusque-là. Intéressant. Elle me dit, papa, j'ai plus rien à me mettre. Tu vas dans la chambre, tu ouvres l'armoire, bourré. Mais il y a 2 mois, ouais. 2 mois, tu t'es acheté ça. Mais papa, j'ai rien à me mettre. Alors je vais vous dire, pendant des années, j'ai essayé de comprendre ce concept. J'ai rien à me mettre, mais regarde, c'est très joli. Ça t'a plu, il y a 2 mois, t'as acheté, t'étais très très contente. Oui, mais c'est quoi ce concept de j'ai rien à me mettre ?
Non, mais c'est la femme, elle a besoin de renouveler.
Ah, c'est vrai. Mais pourquoi un homme n'aurait pas besoin de renouveau? Je sais pas, moi je vais une fois par an à Bnei Brak, je m'achète 2 costards identiques. Vous allez me dire, il est ridicule mon costume. Mais je ne me rends pas compte. Peut-être vous, vous en rendez compte. Mais mes enfants me disent, mais papa, tes costumes sont ridicules. Mais ça va, ça ne m'empêche pas de vivre. Mais effectivement, ce que vous dites, ça a l'air de rien, mais c'est des choses très profondes. C'est ce que la Torah nous dit. Ça a l'air de rien, mais la Torah considère que les habits, pour la plupart des femmes, c'est vital. C'est comme manger. Troisième obligation. L'homme, en se mariant, a une obligation d'avoir une vie sexuelle régulière avec son épouse. Et c'est considéré comme un besoin vital de la femme. Et ça, je mets l'accent là-dessus. Parce que ici, on est en face de quelque chose de complètement, je dirais, révolutionnaire. Révolutionnaire depuis 3400 ans que la Torah a été donnée. Que quand on parle, en général, de sexualité, du sujet dont on parle ce soir, que nous allons étudier dans les textes ce soir, c'est toujours d'après les critères masculins. Quand on parle de sexe, c'est toujours l'homme. Ça veut dire, dans la même société dite évoluée comme aujourd'hui, moderne, où nous avons des objets absolument fantastiques. Oui, moi je suis écrit le cours sur... On a le même. Et on est copains, on a presque le même. Un peu mieux. Alors, on a des appareils absolument très très modernes, de technologie de pointe. Mais au niveau mentalité, c'est très très spécial. Par exemple, on veut te vendre un appareil photo, très joli. Eh bien, on va te mettre une dame comme ça. Pourquoi ? Ça, c'est incroyable. Ça veut dire une dame qui a fait des économies de tissu, par contre. Elle est très très économique. Mais qu'est-ce que ça a à voir ? Quand on parle du sujet dont on parle, en général, on voit tout le temps d'après les critères masculins. Les critères qui flattent la manière qu'a l'homme de se percevoir dans le sujet. La Torah, ici, qui a été donnée au Sinaï il y a 3300 ans, environ, elle nous dit, attention, certes, toi tu as des besoins. Mais quand tu te maries avec une femme qui, elle, aussi, a des besoins. Et tu es engagé par rapport à ses besoins à elle. Et ça, c'est un sujet énorme dans la Gemara. Samer Khalef Amoudbet, Samer Ktubot, Samer Bet, Samer Gimel, Samer Dalet. Il y a des pages et des pages sur ces sujets. Le sujet est étudié à fond dans mon humble livre. Voilà. C'est quelque chose absolument fondamental. Que l'homme, quand il se marie, il est engagé de prendre en compte les besoins, pas seulement les siens, mais de la personne avec qui il va partager sa vie. Et ça, c'est quelque chose, on pourrait dire, d'extrêmement bouleversant. Parce qu'en Occident, ça a été développé, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est le féminisme qui a émergé à la fin des années 50, 60, qu'il y a des femmes qui se sont dit mais on ne parle jamais de nos préoccupations à nous, de notre émotivité à nous, de notre sensibilité à nous. Et c'est symptomatique que celles qui ont lancé ces sujets, ce n'étaient pas des juives pieuses, mais souvent c'était des juives. En particulier, j'ai cité dans le cours que j'avais fait à Cadet, en particulier une dame qui s'appelle Betty Friedan. Vous avez entendu parler ? Non ? Odile ? Non ? Vous n'avez jamais entendu parler de Betty Friedan ? Vous avez entendu parler ?
Judith Butler, oui.
Judith Butler, bon, ça c'est après, c'est post... Judith Butler, c'est post... Betty Friedan. Betty Friedan, celle qui a lancé ce qu'on appelait dans les années 60 le Women's Lib. Celle qui a inventé Women's Lib. C'est-à-dire, justement, c'est l'amour féminin. Et c'était évidemment né à Brooklyn. Son nom de jeune fille, c'est Goldstein, si je ne m'abuse. Et elle a dit, mais on squeeze complètement les besoins féminins. Elle a été très très virulente. Et après, elle a été extrêmement violente par rapport à celles qui l'ont suivie. Parce que, excusez-moi l'expression, mais après, elle a été très mal comprise. Et beaucoup se sont engagés dans les mouvements lesbiens. Elle a dit, vous n'avez rien compris. Elle s'est bagarrée, mais elle s'est bagarrée. Elle a dit, vous n'avez rien compris. Ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Pas du tout. Après, elle s'est détachée de ça. Elle est décédée il y a 4-5 ans. Et dans Libération, ils avaient fait un grand papier sur Betty Friedan. Et bon, j'avais suivi un peu tout son itinéraire, j'avais lu qu'est-ce qu'ils avaient écrit comme ESPED, comme oraison funèbre sur Betty Friedan. Et ils mettaient qu'à la fin de sa vie, Betty Friedan est revenue à ses racines juives et à l'étude du Talmud. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Vous pouvez retrouver, mettez Betty Friedan sur Google.
FR2E ou FR2E?
Comment?
Comment s'écrit FR2E?
Friedan, je pense. Un peu comme les chewing-gums. Alors, mais c'est. Si on peut s'exprimer ainsi, ça aide, si vous voulez, à comprendre un peu l'impact de ce que la Torah nous dit ici. La Torah nous dit, attention, il y a ici la connexion, la rencontre de deux sensibilités très très différentes. Maintenant, au niveau juridique, je dis, il y a deux mitzvot. Mitzvah positive, c'est fructifier, multiplier. Deuxième mitzvah, c'est lorsqu'un homme s'unit avec son épouse, la mitzvah qu'il a, c'est d'être engagé par rapport à ce que la Torah considère comme étant les besoins de sa femme. Et ça, ces besoins sont indépendants des problèmes de fertilité ou non. Il peut y avoir une femme qui, conjoncturellement ou pas conjoncturellement, peut ne pas pouvoir avoir d'enfant. Disons, je prends un exemple, une femme qui est enceinte, mais malgré tout, ça sera considéré comme un besoin fondamental à l'intérieur du couple et une mitzvah. C'est-à-dire un des 613 commandements de la Torah. Un grand maître contemporain, le Stipeler, qui est décédé il y a une trentaine d'années, le Stipeler enseignait que de la même manière que quand quelqu'un il s'achète des téphilines, il ne va pas s'acheter les téphilines premier prix. Et on va essayer des téphilines, on va essayer de s'acheter des belles téphilines. Quelqu'un, il va s'acheter un loulav, un etrog à Sukkot, il va s'acheter un beau loulav, un beau etrog. Il dit de la même manière, la mitzvah, lorsqu'un homme est avec sa femme, eh ben, il faut la faire be'idur. Il faut la faire avec idur mitzvah. C'est une mitzvah, la Torah. De la même manière qu'une mitzvah, on ne la fait pas comme ça, on la fait le mieux qu'on peut, eh bien, c'est un investissement. Je prends un exemple. C'est considéré une mitzvah de la Torah, parce que je prends un sujet qu'en conférence on aborde très peu, c'est le sujet du bain rituel. Donc, de manière cyclique, en général, une femme, donc, il y a des périodes d'impureté et des périodes de pureté dans la Torah. Alors beaucoup ils disent, ouais, c'est discriminatoire par rapport à la femme, c'est absolument rabaisser la femme, oui, t'es impur, machin, bidule. Mais, si on prend la chose hors de son contexte, si on prend ces notions hors du contexte de la Torah, je prends un exemple. Lorsque la femme revient du mari rituel, c'est une mitzvah de la Torah que le mari se rend disponible pour son épouse. Évidemment, s'il ne le sait pas, elle va au bain rituel et elle revient et le mari, bon, il s'en fout, ok, d'accord, bon, ouais. J'ai rendez-vous, j'ai une réunion de l'association de l'échevage étudiant pour préparer le gala, je ne peux pas être là. Ouais. Alors là, évidemment, il fout son couple en l'air. Et c'est par ignorance. C'est une ignorance. C'est une ignorance. Parce que c'est une mitzvah de la Torah qu'il se rend disponible ce soir-là particulièrement. C'est considéré qu'un moment d'émotivité particulière, et c'est considéré que c'est un renouvellement de l'émotivité qu'il y avait au moment du mariage. Et que le mari a une obligation de la Torah. Quand je dis une obligation de la Torah, c'est-à-dire, c'est, s'il ne le fait pas, si je pourrais m'exprimer ainsi, c'est comme s'il mangeait du porc. Là, ça veut dire, tout le monde comprend que dans la Torah, on ne mange pas, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Ça, c'est connu. Oui, on n'a pas le droit de manger la langouste mayonnaise. C'est kham. Ouais, comment ils disent ? Kham, c'est kham, c'est interdit. Ouais. Langouste mayonnaise, c'est assour. Eh bien, quelqu'un qui ne se rendrait pas disponible dans une telle situation transgresse un interdit de la Torah. Transgresse un interdit de la Torah. C'est des choses fondamentales à savoir. Ce étant, on va commencer maintenant, ça c'est les introductions. Maintenant, comme à notre habitude, on va aborder des textes. Je vous passe les textes. Alors j'ai récupéré du brouillon de l'Eshiva, c'est pas important ce qui est écrit derrière. Prenez un texte pour deux. Non, jusque-là, c'était gentil. Parce que là, c'était... Quand on commence à aborder des passages du Talmud, c'est là où ça commence à être plus sympa. Bien. Donc, vous voyez, je prends le texte et j'ai souligné. C'est dans le traité Psarim, Daf Mem Tet Amud Bet, c'est-à-dire 49b, folio 49b. Tania, on enseigne. Donc pour les personnes qui viennent pour la première fois, j'explique un petit peu comment se passent nos séances d'études. Ce n'est pas une conférence proprement dite, on part de textes, et en général de textes du Talmud. Tania, on enseigne. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait Kol amesi bito le am aretz ke ilu kofta umanicha lifne ari. Rabbi Meir disait toute personne qui marie sa fille à un ignorant de Torah, am aretz, ignorant de Torah, que ilu kofta o manicha lifne ari, c'est comme s'il ficelait sa fille et la mettait devant un lion. Ma ari dores ve ochel ve loboshel panim. De la même manière que le lion, il foule avec ses pattes et il mange l'animal encore vivant. Ve loboshel panim, il n'a pas honte. C'est un lion. C'est un lion. Af amaretz, de la même manière, l'ignorant de Torah, maqué ou boel, il frappe et va avec sa femme, ve elo pochet panim, et il n'a pas honte. C'est normal. C'est un homme. Bon. Alors. Ce passage présente quelque chose de terrible. C'est qu'a priori un homme il frappe sa femme. Quelqu'un Alors, il faut savoir, quelqu'un, un ignorant de Torah, tabasse sa femme pour aller avec elle. Et ça a l'air d'être une généralité. C'est-à-dire, kol a messibito la maharet, si c'est un ignorant de Torah, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est bizarre, parce que tu pourrais avoir des gens, je ne sais pas, on n'est pas des bêtes. Je veux dire, on a lu Françoise Dolto. Je veux dire, non, ce que je veux dire, on a lu l'homme, il vient de Mars, la femme vient de Vénus. Pourquoi on nous dit que quelqu'un qui est ignorant en Torah, il y a des choses... C'est quoi cette histoire? C'est comme un lion. Regardons le commentaire de Rashi. Qu'est-ce qu'il a de cette histoire? Oui, non, c'est plutôt Tosfot. C'est Tosfot va donner le secret du sujet. Regardez, Ma'ari Dores Vochel. Donc, dans une page de Talmud, vous avez ici une page classique de Talmud. Dans une page de Talmud, donc ça, c'est le Talmud. C'était écrit quand, vous savez, mademoiselle, quand ça a été écrit le Talmud? Grosso modo, à 300 ans près. Ça a été écrit en Irak, 500, 450 de l'ère commune, 450, 500 de l'ère commune. Donc ça fait 1500, 1600 ans hein, en Irak. C'est-à-dire l'Irak, c'est ce qu'on appelle dans notre tradition Babel, c'est-à-dire c'est le Talmud de Babylone. Babylone, c'est à côté de Bagdad. Vous voyez, si je ne m'abuse, c'est pas très loin de Bagdad. Et c'est là que, il y a 1500 ans, le gros de la communauté juive était là-bas. C'est-à-dire, les ancêtres de beaucoup d'entre nous étaient là-bas. Ouais. Nos ancêtres, c'est babyloniens. C'était à Babylone. Alors, donc ça, c'est le Talmud. Dans la page classique de Talmud, la colonne interne, c'est le commentaire de Rashi. Rashi, donc il était au XIe siècle à Troyes en Champagne. Voilà la Champagne, c'est grosso modo 180 km de Paris. Troyes, ouais, 180 km de Paris, un truc comme ça. Bien. Et la colonne externe, ce sont les élèves de Rashi qui étaient aussi là-bas, ou bien à Paris, ou bien en Normandie. Les Talmuds. Les grands traités, parce que dans le Talmud, il y a beaucoup de traités. Les traités centraux du Talmud, les Tosfot, la plupart des Tosfot des grands traités, Baba Metzia, Ktubot et d'autres, ont été écrits, rédigés par Rabbi Eliezer de Touk. Touk, si je ne m'abuse, c'est pas très loin de notre chère Deauville. Eh bien, il y a toujours eu des Juifs là-bas. Et des grands maîtres. En Normandie, il y a eu des grands maîtres. Dans toute la région parisienne, au haut Moyen-Âge, avant l'expulsion des Juifs de France, c'est la région parisienne, Paris. À côté, nous sommes à 150 mètres de la rue de la Harpe. La rue de la Harpe, originellement, est appelée rue de la Harpe juive. Et j'ai lu dans des livres que c'était là où se trouvait la yeshiva au XIIIe siècle de Rabbi Yechiel de Paris. À part ça, j'aime bien donner des références multiples et diverses à mes cours. Il y a Jacques Le Goff, historien, pas juif du tout. Il a écrit un livre fondamental sur Saint-Louis, sur Louis IX, le roi de France. Et dans ce livre, il dit que l'île de la Cité à côté, c'était au XIIIe siècle. Donc là, le rue La Harpe et l'île de la Cité, à côté du palais royal où il y a la Sainte-Chapelle, c'était Bnei Brak. C'était Mea Shearim. Mea Shearim était ici, dans l'île de la Cité. Et il dit, donc, comme ça, parce que Saint-Louis était d'un antisémitisme absolument hystérique. Et il essaie de trouver des sources, des réflexions. Il dit, on peut dire aussi que quand il ouvrait les fenêtres de son palais, il voyait des sages étudier le Talmud et ça le mettait en bourre.
Parenthèse, il n'y a pas eu d'ouvrage, de livre sur l'antisémitisme de Saint-Louis ?
Si, je te dis, le Saint-Louis de Le Goff est parfait. Il y a 80 pages.
Ah d'accord.
Il y a 80 pages sur Saint-Louis et les Juifs. C'est vraiment l'ouvrage de référence. Hein, c'est extraordinaire, hein, c'est puissant comme livre. Très très puissant.
Okay.
Donc regardez, un gros pavé, hein, et ça se lit comme un roman, c'est magnifique. Donc vous avez Rashi, vous avez Tosfot. Ce sont les élèves de Rashi. Donc ça fait quoi? Ça fait 800 ans. Je reprends le texte. Le texte dit que toute personne qui donne sa fille en mariage à un ignorant de Torah, c'est comme si ficelait cette fille devant un lion. Il la ficelait, il la mettait devant un lion. De la même manière qu'un lion. Un lion, vous avez vu des lions manger? J'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Mais le Talmud dit qui saute sur sa proie, disons sur une gazelle, et il la tabasse et commence à la déchiqueter avant qu'elle soit morte. C'est comme ça un lion. Alors de la même manière, l'ignorant de Torah, il frappe et il va avec sa femme. Est-ce que ça veut dire, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup des violences conjugales. Voilà. Est-ce à dire que nous sommes, tous les couples, sont voués à des violences conjugales? Est-ce qu'il n'y a pas des gentils maris? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont gentils? On dirait que non. Comment? Bon, je ne veux pas de nom. Alors, Rabbeinu Tam explique. Rabbeinu Tam, c'est un des petits-fils de Rashi. Il dit quelque chose de sublime. Ma'ari dores ve'ochel. Donc c'est deux lignes là. De la même manière que le lion, il foule et il mange. Puis Rej Rabbeinu Tam, qu'est-ce que ça veut dire avec un lion? Quel est le lien entre un lion et un homme dans un couple? De la même manière que le lion, il mange sa proie avant qu'elle ne soit morte. De la même manière, l'ignorant, il n'attend pas que sa femme soit disponible. Il n'attend pas que sa femme soit disponible. Il n'attend pas qu'elle soit apaisée. Voilà. L'expression, il n'attend pas qu'elle soit apaisée. Alors là, nous allons passer à un deuxième passage du Talmud. Si on prend de manière structurelle, c'est une manière très très pessimiste sur l'être humain. Très pessimiste sur l'être humain. C'est-à-dire en vérité, il y a un homme et une femme, c'est la collision de deux réalités en vérité qui ne se retrouvent pas vraiment. Comment faire qu'il puisse y avoir un lion? Comment c'est possible? On va passer un passage dans le traité Eruvin. Nous avons dit que la relation intime entre un homme et sa femme s'appelle mitzvah. C'est-à-dire, c'est commandement. Quand un homme et sa femme se retrouvent, c'est un commandement de la Torah. Ça s'appelle, dans le Talmud, ça s'appelle Dvar Mitzvah. Alors regardons. Donc c'est dans le traité Eruvin d'Avkouf Amoudet.
Je crois qu'elle soit apaisée.
Comment?
Tosfot là.
Oui.
On vient de dire. On attend qu'elle, jusqu'à qu'elle soit apaisée. Mais si. Je sais pas, c'est, il faut. Si l'homme il a besoin et la femme elle, elle non. Alors,
ça se passe. Voilà. Regarde, c'est parfait ce que tu dis. Si l'homme il a besoin, oui, je ne sais pas, l'homme, je dis, l'homme revient de la yeshiva, il revient du kollel. Je prends exprès cet exemple. Et il a envie de sa femme. Mais elle, elle fait la popote. Ou je sais pas, moi, elle est sur son Mac, elle fait, je sais pas, qu'est-ce qu'elle est en train de faire sur son Mac. Elle est en train de composer de la musique sur son Mac, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Alors, voilà. Mais, alors, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Alors regardons, c'est le sujet qui va être traité. Donc on est... Il y a des lignes petites, des lignes plus larges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième ligne, large. Ve Amar Rami Bachama, Amar Ravassé. Rami Bachama dit au nom de Ravassé. Assur la Adam... Chez Yakouf Ishto, les Dvar Mitzvah. C'est interdit pour un homme qu'il force sa femme pour la mitzvah. C'est interdit pour un homme de forcer sa femme pour la mitzvah. Chez Nema, comme dit un verset, alors il ne rapporte pas un verset de la Torah. Il rapporte un verset des proverbes du roi Salomon. Chez Neymar, comme dit le verset, « Atz beraglaïm choté ». Celui qui force avec les jambes, c'est un euphémisme, c'est un fauteur. Celui qui force avec les jambes, c'est un fauteur. Alors, d'où vient cette phrase du Talmud? La méthode, quand on dit le Talmud, il y a, si vous voulez, il y a une méthode. Le Talmud, c'est une science. Ce n'est pas des phrases qui sont dites comme ça. Ça doit correspondre à une structure. On ne dit pas « c'est interdit comme ça ». Comme on dirait en mai 68, on disait « interdit d'interdire ». On n'interdit pas comme ça. Un interdit correspond à quelque chose. On ne dit pas « voilà, quelque chose qui n'est pas bien ». On ne dit pas « c'est interdit ». On dit « c'est pas bien ». Il y a des mots pour dire « interdit ». Je ne sais pas d'où ça vient. De quel interdit ça parle? Où c'est interdit? Je reprends l'exemple. Alors vous allez me poser l'autre question. Et si c'est la femme qui a envie de son mari? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est traité dans le Talmud. Hein. C'est traité dans le Talmud. Quand je parle, c'est traité dans le Talmud, c'est-à-dire depuis presque deux millénaires. Hein. Ce n'est pas depuis Sigmund Freud. Hein. C'est traité, il y a des pages et des pages sur ces sujets. C'est normal que la Torah, c'est une Torah de vie. C'est normal que ça soit traité. C'est la vie elle-même. C'est normal que ça soit traité. Donc je reprends. On va voir ensuite qu'est-ce qui se passe si c'est la femme qui a envie. Alors maintenant, le mari, il revient. Moi, je ne sais pas d'où il revient. Ou il ne revient pas, il était chez lui. Ouais. Et il a envie de son épouse. Voilà. Alors, et je ne sais pas, moi, elle est fatiguée, il a très besoin, excusez-moi l'expression. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, forcer sa femme, forcer, ça ne veut pas dire donner des coups, mais on a vu dans la page précédente, c'est ne pas... La détendre. Voilà. pas la détendre, pas la mettre disponible. Parce que c'est pas seulement deux corps, c'est deux personnes. Alors, elle n'est pas disponible. Alors, elle n'est pas disponible, mais bon, il a envie. Alors, s'il force sa femme, ou il fait pression, c'est interdit. Mais de quel interdit il s'agit ? Quel interdit ? Où c'est interdit ? Où c'est écrit dans la Torah que c'est interdit ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Est-ce que vous comprenez la méthode ? Parce que vous allez me dire, mais monsieur le Rav, mais c'est écrit dans le Talmud que c'est interdit. Pourquoi vous demandez pourquoi c'est interdit ? Puisque c'est écrit que c'est interdit. Alors, j'explique que la méthode, c'est une méthode logique. Quand le Talmud, que n'importe quel sujet, que ce soit kashrout, shabbat, droit civil, droit pénal, ou la vie du couple, chaque chose doit être argumentée. On n'interdit pas comme ça, c'est interdit. Surtout, tu m'apportes un verset. Tu apportes un verset des proverbes du roi Salomon. Proverbes, c'est des proverbes, c'est des paraboles, c'est des conseils. Un conseil ne devient pas un interdit. Alors, nous allons voir plus loin. Regardez la suite de la page ici, en bas. Cinquième ligne avant la fin de la page. Alors, toute la page ici de Hérouvine traite de la vie du couple. Toute la page, c'est sur la vie intime. Mais je vous fais des morceaux choisis. Cinquième ligne avant la fin de la page. Amar Rabbi Yochanan. Ilmale nonit na Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, Rabbi Yochanan dit, si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu apprendre la Torah. Autrement que par le don de la Torah. Comment ? Aïnou le midim tsniut mechatoul. On aurait appris la pudeur du chat. Regardez, là aussi, les textes du Talmud ne sont jamais dits de manière évidente. La manière dont les maîtres du Talmud s'expriment sont toujours des manières élaborées qu'il faut décrypter. Rabbi Yochanan dit, toute personne, donc si la Torah n'avait pas été donnée au Sinaï, on aurait pu apprendre la Torah en regardant le monde, par exemple. La pudeur. On aurait pu l'apprendre du chat. Parce que Rashi explique, le chat, il ne fait pas ses besoins devant les autres. Il se met de côté quand on ne le voit pas. Et ensuite, il recouvre ses besoins. Alors regardez, ici, il y a une anomalie dans le texte. Si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu apprendre la Torah hein, du monde, de ce qu'on voit dans le monde. Par exemple, la pudeur du chat. Mais dans la Torah, c'est pas la Torah, je veux dire. On peut comprendre que la pudeur soit importante, que ce soit important, mais dire, on aurait appris la Torah du regard dans le monde. La pudeur. Mais la Torah, je sais pas, il faut mettre des téfilines, il faut manger kasher. C'est bizarre. C'est ça la Torah. On aurait pu apprendre la Torah. Quoi ? On aurait pu apprendre les mezouzot. Non, on aurait pu apprendre la pudeur. Donc c'est comme si. Ici, c'est les fondamentaux de la Torah. Il y a des éléments absolument fondamentaux. Si on avait les yeux pour voir, et la curiosité, et l'éveil intérieur, tu vois des choses pas normales. Si vraiment, on pourrait dire comme ça. Il y en a qui disent que finalement, on est le monde, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et le monde... C'est rien de spécial. On est là, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et on attend que ça se passe, en attendant que les centrales nucléaires explosent et qu'il y ait des pesticides dans l'eau de la ville de Paris. On attend. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. On attend de voir ce qui se passe. Mais il n'y a rien de spécial dans la vie. Non, non. Non, non. il y a des choses très spéciales. Tu vois, le chat, c'est pas normal. Pourquoi le chat, il fait pas pipi devant tout le monde? Le chat. Le chat.
Oui, il a le temps du chat.
Pourquoi le chat, il fait pas pipi devant tout le monde? Tu vois qu'il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à creuser. Si vraiment il ne se passait rien dans le monde, le chat, il ne ferait pas comme ça. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre du chat. Nous, on n'a pas la patience. Mais si on regardait avec une curiosité, on se dirait, tiens, là, il y a la Torah. Il y a quelque chose. Torah, c'est-à-dire un éclat divin. Il y a quelque chose de divin ici. Quelque chose pas normal. Quelque chose qui se passe. Deuxième chose, on aurait appris Gezel Menemela. On aurait appris de ne pas voler de la fourmi. La fourmi, elle a, vous savez, la fourmi, elle a des fois un petit grain de nourriture qu'elle transporte comme ça. Elle a son... Tu me prends l'enfant. Elle a son petit grain. Ouais. Comment? Hein? Ouais, c'est pas mal, hein? Dans une autre vie, j'étais fourmi. Alors, avec son grain. Et des fois, le grain, il tombe par terre. Et l'autre fourmi ne lui prend pas. Ça, c'est pas normal. Là, il y a quelque chose. Le vol, on aurait pu découvrir ici. Si vraiment, on était que simplement on était là qu'une survie, simplement un principe de survie darwinien, c'est pas normal. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose à apprendre de la fourmi. Troisième chose, la fidélité de la tourterelle. On dit toujours, les tourtereaux, on voit par exemple des gens, ils sont fiancés, oh, c'est des vrais tourtereaux, on dit comme ça, des vrais tourtereaux. Pourquoi? Bon, nous, on est citadins, on ne connaît pas. Mais dans la nature, le tourtereau et la tourterelle, ils s'aiment d'amour tendre éternellement. Amour éternel. Ils ont tatoué sur leur bras pour ma tourterelle, pour la vie, et elle, pour mon tourtereau, pour la vie. Et c'est le tourtereau et la tourterelle. C'est pas normal. Pourquoi? C'est pas normal. Vous savez, vous êtes déjà allé sur le pont des Arts. Si par hasard, sur le pont des Arts, il y en a, ils ont mis des cadenas, ils ont jeté la clé. C'est les tourtereaux et les tourterelles. Ouais, c'est cette notion-là, c'est tout à côté. Hein. Après le cours, vous pourrez aller voir. Alors, donc la fidélité, on l'aurait appris. Cette notion de fidélité, qui en réalité n'est pas normale. S'il n'y avait que simplement du sexe, pourquoi une fidélité? Donc, il y a quelque chose qu'on aurait pu apprendre. Autre chose, derereretz, comment un homme se conduit avec sa femme? On aurait appris, mais tarnagol, du coq. Pourquoi? Là, il y a quelque chose de la Torah qu'on aurait appris, le coq. Le coq, qu'est-ce qu'il fait le coq? Chez Mefayes, Vararkar Boel, il apaise la poule, bien nommée. Ouais. Non, mais regardez, essayons d'apprécier la truculence talmudique quand même. Non, ça veut dire, il faut pas lire ça de manière empecée. Genre, c'est pas, veuillez étudier le Talmud derrière les giaphones. Non, c'est truculent. Ils s'éclatent quand ils ont dit ça. Ouais, tu vois le coq? Ouais, tu vois le coq. Vous avez déjà vu souvent des coqs? Ouais, tu vois le coq, il dit comme ça, Rabbi Yochanan, celui qui a écrit le Talmud de Jérusalem. Rabbi Yochanan dit, tu vois le coq, et bien quand il va avec la poule, la bien nommée, excusez-moi l'expression, et bien d'abord, Mefayes, il l'apaise, Vararkar Boel, et après, il s'accouple avec elle. Le Talmud dit, Mai Mefayes. Qu'est-ce qu'il lui dit, le coq à la poule? Amar Rav Yehuda Amar Rav, Arik Amar La. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Rav, grand maître du Talmud. Il lui dit, Zevinaler Ziga de Mateler Adkarer. il parle en araméen, c'est plus en hébreu, il parle en araméen, il lui dit, tu sais ma chérie, il prend ses ailes, ses grandes ailes de coq, et il dit, tu vois, je vais t'acheter un grand habit qui va t'aller là, super bien jusqu'en bas. Elle a dit, non, c'est vrai, oui, oui, un très beau... Tu vas voir, tu sais ce que ça fait des semaines que tu me demandes le manteau que tu me demandais, eh ben on ira ensemble te l'acheter. Et alors, et avec ses ailes, il lui montre. Les bâtards arrivent, bon, on ne t'a pas dit, il la drague, et après il va la jeter comme une chaussette. Non, non, pas du tout. Après qu'il soit allé avec elle, il remue sa crête, il lui dit, si j'ai de l'argent et je ne te l'achète pas le manteau que je t'ai promis, qu'on m'enlève ma crête. Non mais, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire du texte. Là, c'est pas qu'il faut faire. C'est le Talmud, c'est-à-dire c'est une page étudiée par quelqu'un qui étudie le Talmud, il étudie ça. Je ne vous ai pas sorti un truc inconnu au bataillon, c'est une page étudiée, quelqu'un étudie le Talmud, un bachour yeshiva qui étudie le Talmud vient dans une yeshiva et étudie ça. Alors, ici, le Talmud dit, ça c'est une... C'est un fondement de la Torah. Si la Torah n'avait pas été... C'est-à-dire, nous qui ne sommes pas attentifs, nous qui sommes impatients, qui avons autre chose à faire, qui nous avons à vendre nos shmatas, ouais, on a autre chose à faire dans la vie. Shmatas, pour ceux qui ne savent pas, c'est... C'est ce que ça veut dire, shmatas? Non, c'est les fringues. C'est en yiddish, c'est les fringues. Les juifs, ils sont toujours dans les vêtements, ils vendent des vêtements. Ouais. Alors, nous, on a à vendre nos fringues. Ouais. On a pas le temps d'aller voir comment la colombe elle fait, comment le coq il fait. On sait même pas. Nous, on est avec nos iPhones et trucs. On sait même pas qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin. Sinon, on aurait appris la Torah du coq. Mais qu'est-ce que ça va avec le coq? D'accord. Qu'est-ce que ça va avec la Torah? On pourrait dire, ok, le coq, il met des manières, il va pas. C'est pas justement comme le lion qu'on a vu. C'est pas comme le coq, il fait que la poule, elle sourit. Voilà, elle sourit avant qu'il... Elle est apaisée, elle est contente, elle est disponible. Ça ne veut pas dire qu'elle est demandeuse, mais c'est lui qui est demandeur. Ça ne veut pas dire qu'elle est demandeuse, mais au moins, il l'a détendue, elle est mefaillesse. Il l'a détendue, elle avait ses soucis, il y a des gosses qui reviennent, un gosse qui a été foutu à la porte deux jours pour deux jours de l'école parce qu'il avait dit des âneries à la directrice. Alors... Et un autre, je sais pas moi, il a loupé son examen, les soucis du quotidien, on a reçu une lettre recommandée parce que si on paye pas les factures d'électricité, ils vont couper l'électricité. Et ensuite, le mari dit, chérie, je trouve que t'es jolie ce soir, dit arrête. Non mais il est fou celui-là. Alors... alors il faut qu'il la mette à l'aise, qu'il la détende, qu'elle pense à autre chose, quoi, qu'il est pas, voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? C'est gentil, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? Et ne pas se conduire comme ça, c'est interdit de ne pas se conduire comme ça, assourd. Oh, je sais pas. Je mange pas caché. Moi, par exemple, je mange pas la viande du Beit Din. Je trouve pas que c'est assez caché. Non, parce que je veux pas vous mettre mal à l'aise. Non, mais... non, ce que je veux dire, moi, je mange glat. C'est ça qui est important, quand même. Manger, c'est moi. À force de faire du troisième degré, est-ce que c'est compréhensible encore ce que je raconte? Non, ce que je veux dire, C'est ça qui est important, c'est de manger kasher. Ouais, c'est de manger. Non, c'est important, c'est de manger kasher, de respecter Shabbat. Bon, maintenant, un peu bousculer sa femme, c'est humain, je veux dire. Non, c'est interdit. Bizarre, non ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah ? Il n'amène pas vraiment de source à ça. Il n'amène pas vraiment de source. C'est humain, c'est le lion. Le lion, on dit, voilà. D'accord, elle a des besoins. Alors, le Talmud, dans le traité Psachim, si je ne m'abuse, Daf Ayn Gimel Amoudbet, 73b, dit, on a vu tout à l'heure, que le mari a des obligations à l'égard de son épouse. Le Talmud, dans le traité Ketubot, dit qu'il y a une régularité. Le mari doit se rendre disponible régulièrement pour avoir une vie intime avec son épouse. Ok. Maintenant, la Gemara, dans le traité Psachim, Ayn Gimel Amoud Bet, si je ne m'abuse, dit que si le mari voit que sa femme, elle se fait jolie, elle le regarde avec des yeux enamourés, et qu'il se rend compte qu'elle lui tourne autour, qu'elle lui montre une attente, alors c'est une mitzvah de la Torah de faire attention aux attentes de sa femme. Une mitzvah de la Torah. Un des grands décisionnaires contemporains, Rav Moshe Feinstein, dit que c'est comme ça la halakha. Un grand décisionnaire, Rav Moshe Feinstein, contemporain, dit que c'est comme ça la halakha. Bon, maintenant, il ne faut pas être imbécile. Si par exemple, le mari est fatigué, je ne sais pas, il a bossé, il est KO. Il peut dire à son épouse, ma chérie, t'es très gentille, mais... Je suis fatigué, je ne suis pas disponible. Ok, ça c'est humain, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Je suis fatigué, je ne suis pas disponible. Ok. Et a priori, c'est une mitzvah la Torah. Mais alors ici, dans l'autre sens, si lui, il a des besoins, il a envie, c'est très bien. Mais il doit la mettre à l'aise. Il doit la mettre à l'aise. Et s'il ne le fait pas, ça s'appelle interdit. Mais d'où, ou quel interdit ? Alors, j'ai réfléchi longtemps à ça. D'où ça vient ? Et au fil des années, j'ai trouvé dans un commentaire chassidique, d'un grand livre de chassidoute qui s'appelle « Le Or HaChorma » de Rabbi Uri Feivel de Dubrovka. Bon, vous savez, dans notre tradition, il y a le Talmud, les commentaires, et il y a, à partir de la fin, plutôt début du XVIIIe siècle, le Baal Shem Tov, qui est en Ukraine, il a... divulguer, enseigner des côtés ésotériques de la Torah, des côtés secrets de la Torah, qui avant étaient connus que des gens, on pourrait dire, triés sur le volet, une élite. Il a divulgué un petit peu, des côtés très profonds de la Torah. C'est ce qu'on appelle la chassidut. Mais la chassidoute, c'est pas seulement chanter des airs et manger du hareng. C'est pas boire de la vodka. C'est ça, oui. C'est ça, c'est manger du hareng, se mettre le jus d'hareng sur la chemise du voisin, oui. Et avoir des paillosses qui, quand on chante, elles font ding-dong-ding-dong. Ouais, comme Rabbi Jacob, et de boire de la vodka en chantant. Ça, c'est sûr. Mais le fond de la chassidoute, c'est l'étude de la Torah. Non, l'étude de la Torah, c'est pas comment dire, vaporeux. L'étude de la Torah, c'est dans la vie. Donc ça se concrétise. Mais la base, c'est l'étude très, très, très profonde de la Torah. Il y a eu, donc, après le 18e siècle, 19e siècle, et jusqu'à aujourd'hui, des très, 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 très grands maîtres de chassidisme, très grands maîtres, qui ont écrit des livres fondamentaux, des grands enseignants, et qui ont écrit des livres fondamentaux. Et il y a un livre très profond en... La base du chassidisme, c'est parti d'Ukraine. L'Ukraine, la Russie. Ensuite, c'est allé en Pologne, c'est allé en Roumanie, Hongrie. Voilà. Dans ces centres-là, qui souvent étaient à la campagne, il y avait des monuments vraiment de pensée, de la pensée de notre tradition. Et il y a un livre qui s'appelle le Or HaChorma, d'un rabbi qui était il y a 250 ans, qui s'appelle Uri Feivel. Il a écrit Sefer Or HaChorma. Dans ce livre-là, j'ai trouvé une explication qui peut-être va expliquer un peu le sujet. Je me demandais comment ça se fait que Avraham, l'alliance que Dieu lui a demandé de faire entre l'homme et Dieu, la brite, l'alliance, c'est sur l'organe de la reproduction masculin. Pourquoi l'alliance, c'est à cet endroit? C'est bizarre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? C'est quand même... C'est zarbi. On fait une alliance, ça pourrait être ailleurs. L'alliance, ça pourrait... ça peut être autre chose. On pourrait mettre un piercing, là. Pourquoi l'alliance, c'est sur l'organe de la reproduction? Alors, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, donne des explications. Vous avez déjà vu l'explication de Maïmonide dans le Guide des Égarés? Non, vous n'avez pas relu le Guide des Égarés avant de venir. Alors, lui, il dit que c'est pour amoindrir le côté pulsionnel de l'homme. Mais ça n'explique pas, malgré tout. C'est-à-dire, juste savoir un peu avec notre sujet, que ça rappelle à l'homme qu'il n'est pas un animal. Donc, savoir avec notre sujet. Mais j'ai vu dans le Or HaChorma une explication qui m'a bouleversé et que je n'ai jamais vue ailleurs. Il dit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, créateur, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. On dit toujours, les prières se terminent par Shalom. « Oseh Shalom Yevroma, Oseh Shalom Malenu. » Ouais. On dit aussi « Amevarer et Amo Israël ba Shalom. » On dit « Qui bénit son peuple avec Shalom ?» On dit Shalom, toutes les prières se terminent avec le mot Shalom. Shalom, c'est un des noms de Dieu. C'est quoi la notion de Shalom? Explique le Or HaChorma. Le Shalom, par exemple, le Shalom, ça ne veut pas dire d'être d'accord avec tout le monde. Le Shalom, c'est pas qu'on soit tous pareils. Mais que quelles que soient les différences, c'est garder un lien avec. Il est dit que Akadosh Baruch Hu a un lien d'amour et de proximité avec sa création. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on est dans la culture française, on est ici, au cœur de Paris, là. On est le 6e arrondissement, c'est le saint des saints de la culture française, à côté du quartier latin, Saint-Germain-des-Prés. C'est le creuset de la culture française. La culture française, c'est, on pourrait dire, l'athéisme. C'est l'athéisme. Les philosophes qui ont dit il n'y a pas Dieu. Oui, et dire qu'il y aurait un Dieu, c'est un affront, justement, à la grandeur de l'homme. À la grandeur de la pensée de l'homme. Il n'y a pas Dieu. On n'en parle plus. OK.
Mais c'est le Moyen-Âge qui a fait ça.
Comment ?
C'est après tellement d'années qu'on leur a passé Dieu, pendant des années, des siècles et des siècles, Dieu ça voulait dire on pense pas, donc c'est un peu naturel.
Ok, peut-être. Bon, c'est bien ce que tu dis, mais en tout cas, le cœur de la France, ça a été avec Napoléon, ça a amené, on a déboulé Dieu de tout le monde occidental. Et on a l'impression que disons, on est dans un monde où l'homme est laissé à lui-même. Okay. Notre tradition dit le contraire. Akadosh Baruch Hu a un lien avec sa création. Mais dit le Ora Chochma, pas seulement il a un lien avec sa création, qui est théorique, il dit il a un lien d'amour avec sa création, un lien d'affection, un lien d'affection. Et quand il dit à Abraham, lorsqu'il dit à Abraham, ok, maintenant, tu vas faire une alliance, tu vas faire la circoncision, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu vas révéler cela dans le monde. Tu vas révéler que dans le monde, j'ai un lien d'affection. Un lien d'affection avec le monde. Mais où ça va se passer? Eh bien, dans le lieu même du lien d'affection. En vérité, la relation entre un homme et sa femme, il n'y a pas de lieu plus que quelqu'un peut communiquer avec l'autre. C'est la communication même entre un être et un autre être. C'est le lieu même de la communication. Et bien dans ce lieu, on doit révéler que c'est le lieu d'un lien d'affection. C'est le lieu d'un lien. Nous, en vérité, spontanément, instinctivement, il y a des gens, par exemple, ils imaginent beaucoup, c'est le gros de l'humanité, que c'est voilà, on prend son pied, je m'en fous complètement de la personne. Je m'en fous. Mais c'est un malheur. C'est un malheur. C'est un malheur. Après, on a vraiment l'impression qu'on est dans un monde foutu. Dans le lieu même d'une relation, on crée une non-relation. On est en train, donc, d'évacuer que ce monde est lié à Dieu. Quand Abraham dit à Abraham, maintenant, jusque-là, il y avait l'humanité, mais toi, mon petit coco, Abraham, tu vas révéler dans l'humanité que j'ai un lien, que je suis le Dieu un. Qu'est-ce que ça veut dire, le Dieu un? C'est qu'il y a une unité entre Dieu et sa création. Mais ça, c'est de la théologie. Comment ça se vit, en vérité, qu'il y a un Dieu un? Un Dieu qui est un. Ça veut dire, c'est quoi un Dieu un? Un Dieu créateur qui est lié avec sa création. Où ça va s'exprimer? Eh bien, Abraham, j'ai vu que tu étais sympa, dit l'Éternel à Abraham. J'ai vu que tu étais sympa. Eh bien, je vais te demander maintenant que tu fasses une alliance, que tu révèles, que tu t'engages, et toi et ta descendance, et le peuple, qui révéleront que ce monde est le lieu d'un lien d'affection. Mais où ça va se passer? Dans le lieu même d'un lien d'affection. Je pense que c'est ça ce qui explique pour que les maîtres du Talmud vont dire que c'est interdit. C'est aller contre toute la Torah. C'est aller contre toute la Torah. Toute la Torah, elle est là pour que le lieu même d'un lien, c'est-à-dire nous en général, on parle, on a des relations, on a un commerce, on étudie, on travaille avec des gens. Mais tout ça, c'est pas les relations fortes.
C'est lâche.
Comment?
C'est lâche. Ce sont des relations lâches. Pourquoi?
Oui, lâche. Pas dans le sens qu'on est des traîtres, mais assez distant. Voilà. C'est ça ce que tu veux dire. Assez lâche, assez distant. C'est assez distant. Mais la véritable relation où va se jouer la relation elle-même, le lieu même de la relation, eh bien, c'est dans la relation intime. Et justement, dans cette relation intime, une relation, c'est qu'il y a deux êtres. il y a deux êtres qui échangent quelque chose. Et c'est là, justement, que est notre mission à nous, enfants d'Israël, d'exprimer qu'on n'est pas là en train de manipuler les gens, on n'est pas là en train d'user les gens, de les exploiter, mais on est là en train d'avoir une relation de deux êtres. De deux êtres. Il me semble que c'est, si vous voulez, ça paraît, je vais vous dire, moi, personnellement, quand j'ai découvert ce texte, c'était un bouleversement. Maintenant, je crois qu'on comprend que pourquoi le Brit, l'alliance entre l'homme et Dieu, se trouve justement dans le lieu même de la relation. Quand nous, on pourrait penser, en français, dans la vie dans laquelle on est, bon, je sais pas, bon, on prend son pied, on s'en fout, je veux dire, il y a énormément de gens qui vivent comme ça. Ouais, c'est bon, voilà, c'est comme ça, Non, mais si, il faut la Torah entière pour approfondir, pour nous donner l'idée. C'est pour ça, si vous voulez, que je vais dire un peu quelque chose de personnel, mais pas vraiment très personnel. N'ayez pas peur. Il y a des livres comme L'homme vient de Mars et la femme de Vénus. D'accord. Et bon, ces livres et d'autres du même genre, qui en soi, je trouve qu'ils sont bien. C'est bien. Je trouve en soi c'est bien. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Ces livres ou d'autres, hein, ce n'est pas que ça, mais ces livres, c'est bien. Mais. Mon épouse n'est pas d'accord avec le point suivant. Elle pense que ces livres sont très bien. Moi, je pense que ces livres n'apportent rien à un homme. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Oui, non, non. En tant qu'homme, oui, oui. Voilà, en tant qu'homme, j'ai constaté que c'est pas mal, mais ça n'aide pas. Personnellement, ça ne m'aide pas. Dans ma vie, ça ne m'aide pas. En tant qu'homme. Parce que pour faire le poids face au pulsionnel, parce que l'homme est plus... Un de mes maîtres dit, et c'est très profond, ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire. Un de mes maîtres dit que l'homme, c'est une sale race.
Une sale race.
Une sale race. C'est très profond. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est très très profond.
L'homme en tant qu'homme ou...
les mâles. Les mâles. Les mâles, c'est une sale race. Alors, beaucoup de gens... L'étude que nous faisons, j'ai déjà exposé dans d'autres cadres. Beaucoup m'ont dit, c'est horrible ce que vous dites, Rav Zizek. Vous considérez l'homme, le mâle, ouais, comme un animal. C'est pas vrai, c'est pas bien. Mais je l'assume quand même de le dire. Je l'assume. Et j'explique. Il y a un passage, et je pense que c'est le cœur du sujet. Un passage dans le Talmud qui dit, Akadosh Baruch Hu dit, Barati yetzer hara, Barati Torah tavlin. Dieu a créé les pulsions. Les pulsions, si vous voulez, on avait, quand il y avait l'histoire des escales au printemps, bon, on avait, allez, Shiva, pas mal parlé de ça. Plusieurs d'entre vous étiez. On est toujours surpris. On est des gens bien. On est des gens civilisés. Bac plus que vous voulez. Ouais. Bac plus, je sais pas. On a fait des études. Et après, on se rend compte que les bac plus, je sais pas quoi, sont des bêtes. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? En vérité, comme le pulsionnel qui est en nous, ça s'appelle Yetzer. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. En vérité, ces pulsions sont très bonnes. Elles sont très très bonnes. Ces pulsions, elles sont magnifiques. Ça s'appelle Yetzer. Créateur, ça s'appelle. Il y a plusieurs mots pour dire créer. Il y a Boré et il y a Yotzer. Yotzer, c'est Dieu qui a façonné ça. On est façonné par des pulsions. Ces pulsions, elles sont extraordinaires. C'est grâce à ces pulsions que la vie, elle vient. C'est extraordinaire. Si on n'a pas des pulsions, on ne fout rien dans l'existence. Si on a des pulsions, on reste au lit et on fait dodo. Je veux dire, pourquoi se lever? Pourquoi se lever le matin? Grande question. Ouais. Pourquoi se lever le matin? Je ne sais pas, parce qu'on a l'espoir de faire quelque chose. On a des comptes à régler, on veut réussir dans la vie, on a envie, je ne sais pas, d'épater la galerie, de réussir, de se faire du fric. Moi, c'est comme ça, enfin. Non, mais tout ça, c'est très bien. Le fric, c'est bien. Les pulsions, c'est bien. Avoir, je ne sais pas moi, avoir envie de manger des bonnes choses, c'est formidable. Si on n'a pas faim, si on n'a pas d'appétit. Moi, j'ai souvent coutume de dire, par exemple, il y a des maîtres, des rabbanim, des dayanim, leur vie, c'est s'occuper de la cacheroute. Mais pour s'occuper de la cacheroute, il faut aimer manger. Tu ne vas pas aller surveiller. Je connais des rabbanim, ils sont spécialistes du chocolat, spécialistes des yaourts, spécialistes du whisky, spécialistes du pinard. J'ai un ami, c'est un spécialiste, un de mes élèves. Entre parenthèses, ce soir, c'est les fiançailles de sa fille. À Jérusalem. Passons, un de mes élèves, c'est un des plus grands spécialistes du vin cachère dans le monde. Il va partout, il va en Argentine, il va au Chili, c'est le spécialiste du vin cachère. Mais les spécialistes du vin cachère, il faut aimer le pinard, sinon tu ne peux pas t'occuper du vin. Il faut savoir qu'est-ce que c'est du bon vin. Il faut savoir que c'est le bon vin. Tout ça, c'est très bien. La Gemara, elle dit dans le traité Kiddushin, Barati Yetzerara. J'ai créé le Yetzerara, les pulsions. Barati Torah Tavlin. La Torah, c'est Tavlin, c'est les épices. Comment accommoder ça? En vérité, la Torah, c'est la Torah, il y en a qui diraient, non, il n'y a que la Torah dans la vie. Les maîtres du Talmud n'abordent pas les choses comme ça. Nous, on a nos questions humaines. On a nos interrogations humaines. La question, c'est quoi faire de ça? C'est ce que la Torah va nous apprendre. Quoi faire avec ça? Comment assaisonner ça? Il y en a qui disent que les pulsions, il faut dominer ces pulsions. Essayez de dominer les pulsions. On ne peut pas les dominer. Il y en a qui vont dire que j'ai tort. Il y en a qui pensent que... Il y en a qui disent j'ai tort. Mais je défends ce soir la thèse qu'on ne peut pas dominer les pulsions. Le Talmud dit, ce n'est pas le problème de les dominer. La question, c'est comment les assaisonner, comment faire quelque chose. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah va rentrer dans les méandres bizarres de l'âme humaine et va nous apprendre à travailler, à modeler, qu'est-ce qu'on peut faire de ces trucs-là, de les assaisonner, que ça ne soit pas brut de décoffrage, comme on ne mange pas de la viande comme ça, on ne mange pas du poulet comme ça, on met du sel, on met du romarin, on met du paprika, on met des épices, pour que ça soit bon, que c'est du goût. Et bien de la même manière, l'humain, comme ça, c'est pas bon. Et si tu épices, alors, ça, c'est pas une question de dominer, c'est d'épicer, d'en faire quelque chose.
C'est quoi la phrase encore avec les...
Barati Yetzerara. Et après ? J'ai créé le Yetzerara, ouais. Les pulsions mauvaises. Ouais. Barati Torah Tavlin. J'ai créé la Torah épice.
La Torah épice.
La Torah, c'est les épices. Comment assaisonner le Yetzerara ? Donc ici, il n'est pas question de comment on va dire, il faut se... Par exemple, il y a des gens qui me disent, mais monsieur le rabbin, c'est intolérable ce que vous dites. Vous dites finalement que l'homme ne peut pas se dominer. J'affirme,
C'est vrai.
Vous m'avez bien compris. L'homme ne peut pas se douter. Par contre,
les épicés, ça veut dire les transformer ou les...
En faire quelque chose. En faire. Assaisonner. Assaisonner. C'est assaisonner.
C'est
cuisiner. Cuisiner, c'est assaisonner ça pour que c'est un bon goût. Alors, en faire quelque chose pour que ça soit bon, que ça soit digeste. On ne mange pas les choses pas assaisonnées. On ne mange pas.
On peut se demander si l'exemple que vous avez pris avec le chat, la fourmi, etc., n'est pas pour nous le moyen quand même de lutter contre nos pulsions dans le fait de dire le chat, sa pulsion animale, pourrait lui dire de faire pipi devant tout le monde, et puis voilà, il fait pipi parce qu'il a envie de faire pipi. Et que, en fait, il a en lui une domination de sa pulsion. Et donc c'est comme ça qu'on va s'inspirer nous aussi, en voyant le chat faire pipi. On se dit, tiens, peut-être que, en fait, il faut nous aussi dominer notre pulsion et ne pas forcément exactement faire immédiatement ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire.
Oui, mais le chat, me semble-t-il, chez lui, c'est pulsionnel. Ça ne lui demande aucun effort.
Oui, c'est ça.
Le chat, c'est pulsionnel, c'est naturel. Le coq, il fait le coq, il n'a pas étudié 20 ans dans une yeshiva pour faire le coq. Je veux dire, le coq, c'est pulsionnel.
Il naît comme ça.
Mais ce que le Talmud dit, bon, c'est un passage, il faut méditer sur ces passages, c'est un passage difficile. Je pense... C'est que si le monde n'était que darwinien, si on peut dire, il n'y aurait pas des choses comme ça. Même pulsionnellement, il n'y aurait pas. C'est qu'il y a un rayon de divin. Il est pulsionnel chez lui. Mais un rayon et chez lui, c'est pulsionnel. Puis il se passe quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Et ça, tu t'éveilles et tu réfléchis à ça. Mais pour nous, par contre, on n'a pas les éléments. Bon, à votre bon cœur. Voilà, j'ai fini mon speech. Oui.
Mais imaginons que la femme est crevée. Il va bien falloir que l'homme domine ses pulsions.
J'imagine. Oui. C'est très bien. Oui, évidemment. Oui, non. Ouais. Oui, c'est très bien. C'est juste. C'est sûr qu'il y a. C'est sûr que dans la Torah. Il y a 99% de dominer ses pulsions. Non, c'est juste. Mais, on sait très bien qu'il y a énormément, on dit, Enatora mit kayemet, et là, bemishemimitatsmo alea. La Torah ne peut être vécue que chez quelqu'un qui se tue. Il y a une dimension de se tuer, de s'annihiler. C'est juste. Mais s'il n'y a que ça, on pète un câble. S'il n'y a que ça, ouais. S'il n'y a que se dominer, alors le mon maître Rav Abitbol, il dit qu'il y a une réflexion très profonde sur ces sujets, très métaphysique sur ces sujets. Que il y a des cultures où dès que quelqu'un s'occupe de Dieu, il devient moine. Pas seulement chez les chrétiens, mais chez les bouddhistes. Chez les bouddhistes, le monaka, vous voyez, est structurel. C'est une société, les sociétés bouddhistes sont structurées sur le monaka, hommes et femmes. Hommes et femmes. En vérité, dans une certaine mesure, bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de scandales là-dessus, mais dans les sociétés monacales, à la limite, c'est plus facile. Quand la Torah nous demande de servir Dieu en vivant, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en vérité, ce dont on dit, c'est facile de parler, d'étudier, d'analyser les choses, mais dans la vie, des fois... on arrive à être en phase avec ce dont on parle, et des fois on est à milieu de ça. On est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. On est, on, on arrive à un peu faire, à développer un peu quelque chose, et après on fait n'importe quoi. C'est parce que on n'est pas dans, c'est un service de Dieu extraordinaire ce que la Torah nous demande. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sodominés, mais s'il n'y a que sodominés, je crois que on ne peut pas servir Dieu. C'est pas là. C'est le summum du service de Dieu, c'est vrai, souvent, c'est dans le fait de se dominer. Mais il n'y a pas que ça. Et même, la Torah nous demande de ne pas nous mettre dans des circonstances où ça sera trop dur pour nous dominer. Par exemple, un homme n'a pas le droit d'être seul avec une femme qui n'est pas sa femme. Il n'a pas le droit. Tu pourrais dire, oh, mais vous êtes dégoûtant. Dominez-vous. Non. Non, je ne peux pas me dominer. C'est
le problème des religieux.
Comment? Ouais, excellent.
Oui. Moi, ce qui me choquerait, c'est que même avec un propre prêtre, mon propre père, je ne peux pas être dans la même pièce.
Ça, c'est faux. Avec mon père, je peux être complètement. Avec une femme, avec son papa, il peut être complètement. Ouais, excusez-moi, elle peut dormir dans le même lit que son papa. Elle peut faire dodo dans le même lit que son papa. Jusqu'à la puberté, elle peut être nue dans le lit de son père. Mais dès qu'elle a puberté, il faut qu'elle soit en pyjama.
Moi, je peux être avec mon père dans la
pièce. On apprend des versets de la Torah. Oui, absolument. Une maman peut être seule avec son fils, une fille peut être seule avec son père.
Justement sur ça, la bise, parce que j'ai entendu certains, le droit de faire la bise à son frère, l'un n'a pas le droit. Quand on est bat mitzvah, c'est quoi les... J'ai zappé. Hein.
Oui. Alors, la halakha. Un père fait la bise à sa fille, une mère fait la bise à son fils, quel que soit l'âge. D'accord ? Quel que soit l'âge. Maintenant, le frère, dès que c'est bar mitzvah, bat mitzvah, d'après la halakha, il ne fait pas la bise à sa sœur. Maïmonide est très dur par rapport à ça. Il dit que ce n'est pas strictement interdit, mais c'est imbécile de le faire. Il dit, vous pouvez le faire, mais vous êtes un imbécile, dit Maïmonide. Voilà, ça c'est la halakha.
Et quel rapport avec le lion, en fait ?
Avec ?
Le lion.
Non, le lion, justement, le lion, c'est qu'en vérité, s'il n'y a pas cette étude, un homme, il se dit, c'est normal, je suis comme ça. Le lion, c'est-à-dire, le c'est normal, je suis comme ça, je veux dire, où il n'y a pas de problème. Il voit que sa femme, elle fait la gueule. Mais pourquoi tu fais la gueule? Mais je comprends pas, moi, je suis ton mari. Pourquoi elle fait la gueule? Mais elle est conne, celle-là, mais c'est pas possible. Mais t'es enfoiré. Mais je comprends pas, mais sois lesbienne tant qu'à faire. Non, excusez-moi l'expression, je parle comme je parle. Hein, non, mais tu supportes pas les hommes, je comprends pas. Mais un homme, c'est comme ça, mais je comprends. T'as rien compris ou quoi? T'as pas épousé un ectoplasme, un fantôme, c'est un homme que t'as épousé, je comprends pas. Mais pourquoi tu fais la tête? En vérité, des couples explosent là-dessus, sur des trucs comme ça. Sur des choses qui tu vois même pas le problème. Tu n'es pas marié, je vais pas te faire peur. Mais je préfère prévenir que guérir. Je préfère prévenir que guérir. Bon, regardez, c'est sympa. Hein? Bezrat Hashem, on verra sur le mariage la semaine prochaine, sur le cœur. Est-ce que c'est obligatoire le mariage ou non. C'est un peu choquant de le présenter comme ça, mais il y a des textes tellement beaux et peu connus sur le sujet qu'on aborde dans ça. Oui. Comment ? Ah oui, super bonne idée, moi j'ai pas fait. Bien, merci. Hein.